Merci Marie, à vendredi prochain. Deux invités et autant d'explorations, exploration de forêts tropicales humides, de plantes qui dansent ou d'arbres qui marchent avec le botaniste et biologiste Francis Allais, exploration de la locution, etc. Ce geste qui, selon Mallarmé, élimine l'infini inutile par le poète et écrivain Bernard Chambaz. Et c'est jusqu'à 16h.
Poésie et ainsi de suite, par Manou Farine.
Francis Allais et Bernard Chambaz, bonjour, bienvenue à tous les deux. Bernard Chambaz, vous êtes écrivain, historien, poète, cycliste, ex-marathonien. Un premier recueil en 1983, ça s'appelait « Et le plus grand poème par-dessus bord jeté ». Et aujourd'hui, etc., paru chez Flammarion, dans la collection Poésie. Entre-temps, il y aura eu d'autres recueils, des récits, des romans, L'Arbre de vie, Dernière nouvelle du Martin Pêcheur, ça c'était en 2014, des essais, dont À tombeau ouvert, paru tout récemment chez Stock, ou Comment écrire la sortie de piste à 260 km/h d'Ayrton Senna, un jour de mai 1994. La vôtre de sortie de piste, c'est l'été 92, le jour où votre fils Martin disparaît sur une route du Pays de Galles. Et désormais, l'écriture sera hantée de biais ou de front par cette disparition. Et on imagine qu'en épuisant dans ce dernier recueil la locution adverbiale, etc., c'est encore du manque et de ce qui reste, ou de ceux qui restent, qu'il est question. Francis Allais, vous êtes biologiste, botaniste, dendrologue, on vous doit des sommes de publications scientifiques sur l'architecture des végétaux, sur les forêts tropicales humides ou équatoriales que vous avez beaucoup explorées par le haut, par les cimes, par la canopée dont vous êtes sans doute le plus grand spécialiste. On vous doit ces dernières années des publications en forme de plaidoyer pour l'arbre, pour la forêt tropicale, un élange des plantes, un film avec Luc Jacquet, Il était une forêt, et vous signez aujourd'hui un atlas de botanique poétique paru aux éditions Artaud, soit une trentaine de portraits de plantes illustrés par vos soins, au feutre pour l'essentiel, des plantes observées en Amazonie brésilienne, au Nigeria, au Gabon, en Guyane française, au Chili, en Chine, aux Canaries. Il y a là par exemple une plante qui n'a qu'une feuille, une carnivore à temps partiel, des arbres souterrains, une plante déguisée en champignon, une plante qui danse, un arbre qui marche, un arbre qui ne veut pas perdre ses feuilles, un arbre de l'adultère, un aquarium suspendu, des histoires de plantes et d'exubérance, d'adaptation, de comportement. Des plantes remarquables, écrivez-vous, au caractère étrange, à l'esthétique bizarre, à la cocasserie inattendue et à la poésie qui les entoure, comme le nuage d'abeilles entoure la ruche ou les embruns le pont du navire. Avant d'entrer dans le vif des individus, de chacun de ces individus, Francis Allais, une première question sur cette formule, sur ces comparaisons avec les abeilles et les embruns, une comparaison qui peut avoir son importance, vous qui, à longueur de publication, aimez rappeler à quel point nous sommes plus intéressés par l'animal que par le végétal, jusque dans la langue qui est à notre disposition, et à quel point les fonds sous-marins font l'objet de plus d'attention que les forêts, comme si malgré tout, vous aviez sans cesse dû lutter contre un champ plus séduisant que le vôtre. Est-ce que c'est toujours le cas ?
C'est toujours le cas. Je constate que collectivement, nous avons tous une préférence pour les animaux par rapport aux plantes. Il m'en arrive des confirmations presque chaque jour.
La dernière ?
La dernière, écoutez, c'est pas vieux, c'est dans le train en venant ici. Charles Darwin, il est connu pour ses travaux d'évolution animale. Vous pouvez poser la question à qui vous voudrez, ça sera un spécialiste des animaux. Ce que je veux dire, c'est que lui se considérait comme botaniste. Mais avec le recul, voyez, on a oublié ce qu'il a fait en botanique et on a retenu que ce qu'il a fait sur les animaux, ça c'est typique.
Vous dites d'ailleurs, quand nous les étudions, c'est toujours à partir de modèles humains et animaux, nous restons indécrottablement zoocentrés. parler de timidité des arbres, Francis Allais, par exemple, pour expliquer comment des arbres de même espèce feraient preuve d'une certaine retenue pour ne jamais croiser leurs branches. Est-ce que ça n'est pas aussi se laisser tenter par l'anthropomorphisme ou est-ce que c'est une façon, nécessaire de séduire ?
Non, je vais vous expliquer. C'est simplement traduit de l'anglais, « crown shyness ». Alors on a traduit ça par timidité des couronnes, mais on ne sait pas comment ça marche et on ne sait pas à quoi ça sert. Quand ces problèmes-là seront résolus, je suis absolument partisan de laisser tomber cette histoire de timidité, parce que ça, c'est prêter aux arbres des sentiments humains, et je crois qu'il faut surtout pas faire ça.
Qu'est-ce qui fait qu'un arbre, au fond, aurait plus à nous apprendre qu'un animal, ou peut-être même qu'un homme, Francis Allais ?
Beaucoup plus. Parce que les animaux, je les aime bien. Mais je les connais, même un animal que je connais pas du tout, que j'ai jamais vu, je sais comment ça marche, je sais où est l'avant, où est l'arrière. Je sais que si je lui donne à manger, il sera content, que si je fais du bruit, il va avoir peur. Je sais déjà des tas de choses à son sujet. Tandis que la plante, il faut tout apprendre. C'est l'altérité absolue. Pour moi, rencontrer une plante, c'est un peu comme de rencontrer un extraterrestre sur une planète qu'on finira bien un jour par visiter.
Encore maintenant ?
Mais bien sûr, des formes de vie qui n'ont rien à voir avec la nôtre. Et donc il va falloir être prudent, prendre du temps pour échanger avec ces organismes-là. Voilà.
Qu'est-ce qui fait que vous, Francis Allais, précisément, ça vous rassure que d'avoir affaire à cette altérité radicale, alors que normalement le commun des mortels éprouverait l'inverse ?
Moi, je ne suis pas misanthrope, c'est pas ça. J'aime bien les êtres humains, le problème n'est pas là. Mais intellectuellement, vous conviendrez qu'il y a beaucoup plus à apprendre sur un alien, un extraterrestre, que sur une bestiole que je croise tous les jours.
Bernard Chambaz ?
Si je m'en réfère, enfin, j'ai aucune expérience de biologiste, ni de biologie. On a un rapport aux fleurs, par exemple, qui ne nous est pas tout à fait étranger. J'ai lu naguère un livre d'un Allemand, d'un écrivain allemand, qui était Alfred Döblin, qui s'appelait « L'assassinat d'une renoncule ». On trouve chez certains écrivains, chez peut-être certains peintres aussi, une véritable humanité de la plante, un véritable rapport qui s'entretient entre les plantes et les humains. Il y a aussi l'idée de l'herbe, c'est sans doute un des éléments végétaux minimaux. C'était le philosophe Deleuze qui avait fait la remarque, là aussi je ne sais pas si elle est tout à fait à tort ou à raison, mais où est le commencement de l'herbe, le bout de l'herbe, le milieu, la fin, qu'il y a, pour moi aussi un des plus grands poèmes de l'histoire de la poésie, c'est le livre de Whitman sur ces herbes. En vous écoutant, je pensais la timidité des arbres ou les arbres qui avancent tout de suite, vous pensez à Shakespeare, aux arbres de la forêt de Birnam. Donc il y a une espèce malgré tout d'humanisation des plantes qui est peut-être pas le meilleur service qu'on rend aux plantes, si on vous écoute, mais qui est quand même ancré chez nous, qui est ancré dans l'humanité. Puis il y a chacun d'entre nous, il y a des arbres, moi par exemple, il y a des arbres qui m'émeuvent beaucoup, d'autres pas. Je suis quelqu'un qui, vous me pardonnerez, j'ai pas une passion pour les forêts, mais j'ai, à part peut-être la taïga, mais surtout l'hiver, mais j'adore quand il y a un arbre seul sur une colline, par exemple. Donc, je crois qu'on a aussi grandi, et on commence à vieillir, avec un rapport à l'ensemble des plantes qui contribue à nous fonder, malgré tout.
Je suis d'accord, mais je regrette cette tendance que nous avons à les travestir en êtres humains. L'anthropomorphisme, c'est une position que je comprends très bien et qui a des origines extrêmement antiques. L'ennui, c'est que ça empêche de progresser dans la connaissance. Et puis, ça me fait penser à Cocteau. Qu'est-ce qu'il disait, Cocteau ? Puisque ce mystère nous dépasse, feignons d'en être les organisateurs. Non, je crois qu'il faut laisser aux plantes leur véritable altérité.
Vous-même, Francis Allais, vous avez commencé dans les années 50, étudiant par le règne animal, me semble-t-il, avant d'opter pour le végétal. Oui. Qu'est-ce qui vous a finalement fait abandonner l'un pour l'autre ?
Ah, c'est un basculement qui a duré une seconde. Il y a une plante qui a poussé devant moi, dont je ne m'étais jamais occupé. C'était sur mon balcon au quartier latin. Je ne savais pas ce que c'était, puisque je ne m'intéressais pas à ça, puisque mon travail, c'était les animaux à l'époque. Et puis, je l'ai vue pousser, je l'ai vue fleurir. Elle a donné des graines. Et l'année d'après, il y en avait partout, de ces petites plantes. Je me suis dit, mais ça, c'est magique. Voilà quelque chose de totalement autonome dont je n'ai pas eu besoin de m'occuper. Elle est seule et elle fait tout ce qu'elle a à faire. Si j'avais eu un animal sur mon balcon, il aurait fallu que je le nourrisse, que je retire ses crottes, etc. Non, non, les plantes, c'est bien plus malin.
Vous savez aujourd'hui ce que c'était, que ces plantes?
Oui, je l'ai identifié. C'est la Capsule Bursa Pasteur. Très, très banal, mais très joli.
Avant ce pot, ce petit pot originel, il y a l'enfance aussi. Hein, un jardin nourricier pendant la guerre, un père ingénieur agronome. Sept garçons, tous plus ou moins liés à terme à l'agronomie. Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis? Qu'est-ce qu'il vous en est resté de ce legs dans l'exploration scientifique des forêts, des plantes,
mes
des
frères,
arbres?
Mes frères et sœurs, c'est vrai qu'ils avaient des liens avec l'agronomie, mais ce que j'ai retenu d'eux, c'est les liens avec les tropiques. C'était des voyageurs, et comme ils étaient tous plus âgés que moi, ils repassaient à la maison avec des boîtes pleines de choses extraordinaires. Moi, ça m'a fait rêver. Quand j'ai eu l'âge de voyager moi-même, je m'y suis mis.
Dans l'introduction à votre atlas, paru chez Artaud, Francis Allais, vous citez Darwin, hein, dont on parlait à l'instant, découvrant à 22 ans la forêt du Brésil.
Magnifique.
Et il dit ceci: « Je n'ai jamais éprouvé de délices aussi intenses. Délice est un mot trop faible pour exprimer les sentiments d'un naturaliste qui, pour la première fois, s'aventure en forêt du Brésil. » Hosanna, Hosanna, le plaisir est tel qu'il n'y a aucun moyen, ni d'ailleurs aucun espoir, d'en éprouver jamais un plus profond. Qu'est-ce que vous auriez écrit ou dit, Francis Allais, après cette expérience-là, cette première expérience?
J'aurais sûrement pas eu le talent de Darwin, mais je comprends parfaitement son sentiment. Ceux qui vont dans ces forêts après une préparation intellectuelle, ils trouvent absolument tout ce qu'ils cherchent et bien plus encore. Donc l'admiration, je la partage totalement. Cette forêt, elle peut être dangereuse, elle peut être ennuyeuse, et même dangereuse pour les gens qui s'y retrouvent sans l'avoir souhaité, et sans s'y être préparé.
Vous souvenez de cette première expérience?
Oh, tout à fait, très bien. C'était mon premier contact avec cette forêt dont je rêvais depuis si longtemps. Ça se passait dans ce qui est maintenant devenu une banlieue d'Abidjan. Évidemment, il n'y a plus que des parkings de supermarchés à la place de ma forêt.
Alors, retour à votre livre et à la forêt et aux plantes, à votre atlas de botanique poétique. Qu'est-ce qui se trame donc dans ce terme de poétique?
Écoutez, moi j'ai la plus grande sympathie pour la poésie. J'en ai le plus grand besoin. Je peux vous expliquer pourquoi?
Bien sûr.
D'abord parce qu'il y a des gens illustres. Paul Valéry, vous le mettriez dans les poètes, n'est-ce pas?
Bah, bien entendu.
Bon, eh bien cet homme-là, il a eu des intuitions absolument fulgurantes dans le domaine qui est le mien. Il a compris les arbres bien avant nous. Non pas comme spécialiste d'armes, mais comme poète. Et j'ai l'impression que nous autres, les scientifiques, nous peinons à suivre un esprit comme celui-là. Donc la poésie, ça nous montre le chemin, dans beaucoup de cas. Et puis, il y a une autre raison aussi. Le langage scientifique, je l'aime bien, je le pratique, c'est mon langage après tout. Mais il a des limites. Il a des limites, voilà. Il y a un moment où on ne peut plus progresser. Il nous reste alors la possibilité d'utiliser le langage poétique et la forme de sentiment qui transparaît dans la poésie. Et alors on va beaucoup plus loin. Donc pour moi, la poésie, c'est quelque chose d'indispensable.
Vous parlez, Francis Allais, dans ce petit atlas, vous parlez au jeu, vous assumez une forme de subjectivité, vous insistez même souvent sur la magie, hein, vous l'avez même déjà dit depuis le début de cette émission, sur l'émerveillement, sur les mystères, sur ce qu'on ne sait pas, beaucoup sur ce qu'on ne sait pas, comme par exemple pourquoi du latex dans les VA, pourquoi une plante vue en Chine est ramenée en France, danse-t-elle lorsqu'on fait du bruit? Tout un tas de questions que vous vous posez, tout un tas de sujets potentiels d'études pour la suite, pour après, pour les jeunes chercheurs. Vous avez beaucoup écrit d'ouvrages de vulgarisation. Vos modèles littéraires, est-ce qu'ils ne seraient pas plutôt allés chercher du côté des descriptions naturalistes du XVIIIe siècle, plus que du côté, au fond, du langage scientifique tel qu'on le connaît, nous, aujourd'hui?
Oui, sans aucun doute. Je suis horrifié par le langage scientifique contemporain. C'est laid et ça donne pas envie de le lire. Alors, c'est suivi avec passion par quelques spécialistes de la question, mais il faut pas demander au grand public d'aller se nourrir intellectuellement dans ces choses-là. C'est absolument illisible.
Qu'est-ce que vous trouvez dans la langue des naturalistes du XVIIIe siècle?
Ah, mais j'aime beaucoup.
Est-ce que vous voulez bien nous faire lecture, Francis Allais?
Volontiers. En 1962, alors que je remontais le fleuve Mana en Guyane, j'ai aperçu ce que je pris alors pour un champignon rouge à chapeau pas encore ouvert. Le lendemain, il était mort. Les jours suivants, j'en vis beaucoup d'autres qui tous mouraient le lendemain. J'ai réalisé peu à peu que chaque matin, ces champignons étaient morts sans que j'aie pu voir leur chapeau ouvert, comme s'il se passait quelque chose durant la nuit. J'ai donc décidé de rester réveillé pour guetter et j'ai observé des choses très curieuses au cours de cette nuit-là. Lorsque l'obscurité tombe, les chapeaux de ces pseudo-champignons, formés d'écailles côte à côte, laissent apparaître des fleurs. Peu à peu, toutes les écailles tombent et à la place du chapeau, on voit une petite boule de fleurs. Plus tard dans la nuit, ces fleurs se flétrissent et disparaissent, laissant une surface rouge, nue et percée de trous. En fin de nuit, vers 4 heures du matin, si je me rappelle bien, de nouvelles fleurs sortent des trous. Et cette surface est couverte de petites fleurs blanches qui sentent bon et attirent les insectes. Quand le jour se lève, cette deuxième génération de fleurs est déjà fanée, tout est pourri et tout s'effondre. Ce que je prenais pour un champignon était une plante à fleurs parasite. Vivant à l'ombre en sous-bois, Helosis cayennensis, car c'est son nom, a développé une adaptation à l'absence de lumière et donc à l'absence de photosynthèse. Elle n'a plus ni feuilles ni chlorophylle. Ses racines perforent celles des arbres voisins et y puisent l'énergie sous la forme de sucre et d'autres produits de la photosynthèse. Au cours de la nuit, elle porte d'abord des fleurs femelles, puis des fleurs mâles, celles qui sentent bon, et à l'aube, la plante tombe sur le sol. J'étais fasciné. Je ne savais pas qu'une plante à fleurs pouvait ressembler à un champignon. J'en ai fait une multitude de dessins en couleur. Helosis cayennensis me suggère une réflexion sur la pratique de la botanique. La plupart de mes collègues rêvent de découvrir une plante nouvelle. Pour ma part, la découverte d'une nouvelle plante à laquelle il faut donner un nom m'indiffère totalement. Ce n'est pas mon métier. J'irai un peu plus loin, ça me casse les pieds.
Ça n'est pas dans le texte.
C'est la biologie de la plante qui m'intéresse. Je rêve de sortir la botanique de cette obligation de nommer et de classifier pour l'amener plus directement à l'étude de la biologie des plantes. Pour revenir à Helosis cayennensis, son parasitisme est légitime et, pour tout dire, il est moral. En effet, dans la forêt tropicale, les grands arbres captent l'essentiel de la lumière au niveau de la canopée. Au ras du sol, les petites plantes, incapables de pratiquer la photosynthèse dans la pénombre, prennent l'énergie là où elles se trouvent, c'est-à-dire dans les racines des grands arbres. Je trouve qu'il y a là un juste retour des choses.
Merci. Il y aurait donc affaire de morale en botanique, Francis Allais ?
Non. Mais là aussi, c'est de la subjectivité, peut-être un brin de poésie. Et puis, je crois que tout le monde comprend ce que je veux dire.
Au moment de choisir ce petit portrait, hein, donc de cette plante déguisée en champignon, Francis Allais, par ailleurs, c'est moi qui l'ai choisi, hein, ça n'est pas vous. Vous m'avez dit néanmoins que vous la trouviez fort sympathique, ce qui pourrait sous-entendre qu'il y a des plantes que vous ne trouvez pas sympathiques ou qui vous sont antipathiques. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Est-ce que ça arrive? Est-ce que ça existe? Et ça tient à quoi?
Bon, attendez, je vais vous expliquer ça. J'aime pas les orchidées. Les orchidées, ça fascine le monde entier. Il y a des sociétés puissantes, puissantes financièrement. Il y a des congrès tous les ans. Il y a des installations énormes. Bon, ces plantes-là, elles m'indiffèrent. C'est même un peu plus grave que ça. Pour une raison très simple, c'est que l'énorme majorité des orchidées poussent sur les arbres. Elles ne sont pas au sol comme celles qu'on a en France. Elles tapissent les hautes branches des grands arbres tropicaux. Et les grands arbres, on s'en occupe pas. C'est pour ça que les orchidées, je préfère ne pas en parler.
Ces plantes et quelques arbres, Francis Allais, que vous décrivez par les mots, vous les décrivez aussi par le dessin, des dessins au feutre, hein, je pense, pour l'essentiel. Dans le film de Luc Jacquet, Il était une forêt, on vous voyait d'ailleurs avec gomme, crayon, feutre, carnet, assis dans un arbre. Je crois qu'il y a même eu un album paru chez Actes Sud de l'homme qui dessinait les arbres, qui vous est consacré. Qu'est-ce que le dessin vous apprend que l'observation par l'œil ne peut pas? Quand vous les dessinez, qu'est-ce que vous comprenez d'autre?
Si je ne la dessine pas, je vois des milliers de plantes dans la journée, je ne peux pas mémoriser tout ça. Le dessin, pour moi, c'est juste une manière de garder en mémoire ce que j'ai vu d'intéressant.
C'est tout?
Non, c'est pas tout. On me dit parfois, tu ferais mieux d'utiliser ces petits appareils photo qu'on fait maintenant. mais ça marche pas. Parce que la photo, c'est le 50e de seconde. Tandis que moi, une plante comme ça, je travaille 2 ou 3 heures dessus. Et c'est pas du temps perdu, parce que c'est à ce moment-là que des questions me viennent au sujet de cette plante. Mais ça tombe bien, le modèle, il est sous mes yeux. Donc je peux y répondre. Tandis que les photos, moi, je sais bien comment ça se passe. Un mois après, on se dit, mince, mais où est-ce que j'ai pris ça? Puis on voit rien, de toute façon. Alors, je voudrais dire aussi que le dessin, c'est une tradition botanique extrêmement ancienne.
Pas de botaniste sans main qui crayonne, sans main qui dessine?
Alors, j'ai des collègues qui peuvent pas ou qui veulent pas dessiner, ça c'est sûr, mais ils font appel à des dessinateurs professionnels. Au Muséum de Paris, au laboratoire qui s'occupe des plantes, il y a une équipe de dessinateurs professionnels. On peut pas faire autrement.
Vous avez appris à dessiner ou sont les plantes qui vous ont appris à dessiner?
Ni l'un ni l'autre. J'ai pas appris. Je suis d'une famille de dessinateurs. Donc, il n'y a aucun problème.
Pourquoi est-ce que vous dessinez davantage les arbres des tropiques? Parce que j'avais pu lire que, au fond, les arbres européens vous étaient plus difficiles à dessiner.
Oui, c'est vrai. J'arrive de l'Arboretum National. J'étais encore ce matin. Et je fais un effort pour dessiner les arbres d'Europe. Mais c'est vrai, écoutez, c'est pas compliqué, ils sont soumis chaque année à un épisode climatique épouvantable qu'on appelle l'hiver. Et ça les déstructure, c'est une lutte effrénée pour survivre à l'hiver. Ça se voit dans l'arbre, une fois qu'il est grand. Dans les tropiques humides, c'est pas ça, c'est l'optimum en permanence. Donc les choses sont beaucoup plus simples.
Et c'est ça qui rendrait le dessin plus difficile?
Ah ben oui.
C'est-à-dire, du coup, l'architecture de l'arbre serait plus difficile à
saisir.
Beaucoup
plus difficile dans nos régions, oui, absolument.
Alors, l'arbre peut aussi résister au dessin, mais il peut aussi résister à la définition. Vous revenez notamment sur cette impossible définition de l'arbre dans l'Atlas. Vous avez longtemps dit, si vous rentrez dans un végétal avec votre bagnole et qu'elle se casse, alors il s'agissait d'un arbre. Les écoles forestières ont longtemps dit qu'il fallait que ça fasse plus de 7 mètres de haut et que ça ait des branches pour que ce soit un arbre.
Et des feuilles.
Dans votre atlas, il est question d'arbres souterrains, ce qui rend évidemment cette définition beaucoup plus compliquée. Au final, qu'est-ce que c'est qu'un arbre, Francis Allais?
Non, au final, je laisse tomber la question de la définition. Parce que, attendez.
Au final, aidez-nous.
Mais quand je dis arbre, tout le monde voit très bien ce que je veux dire.
Quand on lit votre atlas de botanique, on n'est plus très sûr.
Eh bien, écoutez, je vais pratiquer la position des anglo-saxons. Ils ne s'embêtent pas avec des définitions. Tant que ça marche, continuons comme ça.
Alors, laquelle vous conviendrait le mieux? Ou en tout cas, quelle est la dernière piste que vous n'en rien?
Non, n'insistez pas, je laisse tomber la définition de l'arbre. J'ai mieux à faire.
Cette sélection subjective, c'est aussi en creux, d'une certaine façon, un portrait de vous, vous scientifique, vous voyageur, vous illustrateur, vous en empathie ou pas, avec ces plantes et ces arbres. Devant un arbre, nous voyons, dites-vous, les uns et les autres des réalités différentes, chacun la sienne, en fonction de ce que nous sommes nous-mêmes. Qu'est-ce que vous voyez lorsque vous regardez un arbre? Je pense par exemple au Moabi, qui a droit à plusieurs pages dans cet atlas de botanique, et dont j'aimerais bien que vous nous parliez. Et du coup, le regard que vous portez sur cet arbre, qu'est-ce qu'il pourrait bien raconter de vous, Francis Allais?
Le film de Luc Jacquet dont vous avez parlé tourne autour du Moabi. Et il est vrai que la rencontre au Gabon entre cette équipe de cinéma et le Moabi, ça a été un instant très émouvant. C'est un arbre incroyable qui laisse derrière tous les autres arbres. Luc disait que c'est un arbre charismatique. Quand vous avez vu un Moabi, les autres, c'est pas ça. C'est un arbre incroyable. Le diamètre tiendrait dans cette pièce, tout juste. Et il donne des fruits délicieux, que les éléphants connaissent bien. Ces idiots d'animaux, excusez-moi. Ils arrivent devant le Moabi et ils essayent de le secouer en donnant des coups de défense dans le tronc. Et évidemment, ça marche pas. Vous pouvez pas secouer un truc comme ça. Seulement à force de l'attaquer avec des défenses tout autour, ils finissent par tuer les Moabis. Ah, c'est un arbre absolument magnifique. C'est le plus grand arbre d'Afrique, de très loin. 75 mètres. Et encore, vous remarquerez que quand on parle de la hauteur d'un arbre, on oublie les racines.
Vous qui dites, Francis Allais, qu'au fond, aimer les arbres, c'est une autre façon d'aimer l'homme. S'intéresser aux arbres, ça permettrait de révéler des choses de la nature humaine dont nous aurions besoin. Aujourd'hui,
je fais référence à l'agroforesterie. Vous savez que notre agriculture contemporaine, pas seulement en Europe, mais un peu dans toutes les régions tempérées du monde, elle est mal barrée. Il est très grand temps de réagir. Et quelle est la meilleure manière de réagir pour sauver notre agriculture? C'est d'introduire dans nos pratiques agricoles ce qui se passe dans les forêts. Une forêt, c'est une énorme productivité, n'est-ce pas? Mais on n'arrose pas, on ne met pas d'engrais, on ne met pas de pesticides ni d'herbicides. Tout ça est totalement inutile. C'est le maximum de productivité et le minimum d'intrants. C'est de ça qu'on a besoin. Donc il faut transvaser les pratiques forestières dans l'agriculture. Et ça, c'est l'agroforesterie. Je suis très content que ça prenne sa place dans la communauté européenne et qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs qui ont compris ça.
Évidemment, vous avez alerté sur la disparition des forêts primaires. Après toutes ces années d'engagement, au final, qu'est-ce que vous avez véritablement obtenu, Francis Allais?
Rien. C'est l'échec. Je suis content de l'avoir fait. Si c'était à refaire, je le referais certainement. Mais voyez, il y a une telle pression de la part des lobbies financiers de la déforestation que je crains que, tant qu'il restera un bel arbre avec du bon bois, il va être abattu. L'être humain est un primate déconcertant. Et à mon avis, il va dans le mur à une allure bien plus grande que ce qu'il imagine.
Et là, ça aura pris quoi? Ça aura pris le temps d'une vie?
Bah écoutez, quand j'étais jeune chercheur, effectivement, à 22 ans, les forêts primaires, il y en avait dans le monde tropical tout entier. On aurait fait rire les gens en disant, dans 50 ans, il n'y en aura plus. 50 ans, qu'est-ce que c'est? À l'échelle des temps géologiques, ou même à l'échelle du temps évolutif, celui de Darwin, c'est rien, 50 ans. Et toute la ressource de biodiversité de notre planète, voilà, était là-dedans.
Alors, de forêt, il n'est pas tout à fait question dans la voix que vous avez demandé à entendre, mais en tout cas dans son paysage, certainement, et cette voix, c'est celle-ci.
Ils parlent de la mort, comme tu parles d'un fruit. Ils regardent la mer, comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives, au soleil redouté. Et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin. Et par manque de brise, le temps s'immobilise aux marquises. Du soir montent des feux et des points de silence qui vont s'élargissant et la lune s'avance. Et la mer se déchire, infiniment brisée par des rochers qui prirent des prénoms affolés. Et puis, plus loin, des chiens, des chants de repentance, et quelques pas de deux, et quelques pas de danse. Et la nuit est soumise, et l'Alysée se brise aux marquises. Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard. Le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard. Et passent des cocotiers qui écrivent des chants d'amour que les sœurs d'alentour ignorent d'ignorer. Les pirogues s'en vont, les pirogues s'en viennent, et mes souvenirs deviennent ce que les vieux en font. Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise aux marquises.
Vous écoutez France Culture, Poésie et ainsi de suite, par Manou Farine.
Les Marquises, extrait du dernier album de Brel en 77. Francis Allais, c'est Brel que vous vouliez entendre, ou un paysage, voire une forêt humide tropicale polynésienne que vous vouliez évoquer?
Non, je suis fasciné par le fait que cet homme-là, qui avait un sens poétique indiscutable, il a compris les tropiques alors qu'il y vivait pas depuis très longtemps. Il a compris magnifiquement les tropiques. Et on me croit botaniste, et c'est pas faux, mais en réalité, je m'intéresse largement autant aux pays tropicaux qu'aux plantes qui y poussent. Et je trouve ça superbe, voilà.
Qu'est-ce qu'il comprend ?
Le temps, le jugement qu'il porte sur le temps, le jugement qu'il porte sur les souvenirs, sur la manière dont le temps s'écoule. Voilà, et quand on a l'expérience de ces pays-là, on s'y retrouve parfaitement. Or, il a acquis tout ça en quelques années, pas plus.
Vous avez écrit dans La vie des arbres, Francis Allais, quel que soit votre métier, à un moment donné, vous allez vous demander si vous n'êtes pas en train de perdre votre temps. Et même si vous n'avez pas une activité pernicieuse, vous pouvez être commerçant, archevêque, marin-pêcheur, musicien ou médecin. Tôt ou tard, vous aurez l'impression de perdre votre temps. Il existe une seule exception. Si vous plantez des arbres, vous êtes sûr que ce que vous faites est bien. Quel est le dernier arbre que vous avez planté, Francis Allais ?
Oh, c'est pas récent, malheureusement. Oui, c'est dans mon jardin à Montpellier, j'en plante assez souvent. Un faux poivrier qui descend des Andes. Il a maintenant 20 mètres de haut. Un arbre pleureur, comme ça, avec des feuilles qui dégagent une forte odeur de fenouil. C'est ce que les Brésiliens appellent les baies roses. Le poivre rose, voilà, c'est lui, il pousse très bien chez nous.
Bernard Chambaz, est-ce que écrire pourrait relever d'une même éthique ?
Je ne sais pas. Si je voulais filer la métaphore, je dirais pas qu'écrire un poème, c'est comme planter un arbre, mais il y a peut-être un parallèle qu'on pourrait suivre. Mais moi qui plaide pour la porosité entre la poésie et la prose, par exemple chez quelqu'un comme Giono, en vous écoutant tous les deux, je pensais évidemment à L'homme qui plantait les arbres, et qui est un texte de prose empreint d'une poésie, et pour reprendre votre terme, d'une éthique tout à fait formidable. Et tout ça chevillé à une langue extraordinaire. Donc même si la poésie n'est pas une science, elle obéit à une rigueur qui et à des règles qui sont pas les règles anciennes, traditionnelles de la versification, qui ont servi un temps et qui ont eu leur mérite éminent, mais qui sont d'autres règles fondamentalement de rythme.
La poésie, Bernard Chambaz, c'est par là que vous commencez, en tout cas une première publication en 1983, et le plus grand poème par-dessus bord jeté, le « et » étant écrit avec le signe de l'Esperluette, paru chez Segers à l'époque, poésie jamais abandonnée, hein, il y aura notamment « Été » en deux volumes, il est un poème paru à 5 ans d'intervalle, et aujourd'hui, etc., paru chez Flammarion. Poésie, c'est le noyau dur, dites-vous, Bernard Chambaz. Alors, vous avez partiellement déjà répondu à la question, mais qu'est-ce que ça peut bien raconter de ce qu'est le reste pour vous, c'est-à-dire roman, essai, récit, si la poésie est le noyau dur?
C'est à la fois un noyau dur et aussi cette espèce de noyau de solitude élémentaire à partir duquel on se constitue, et peut-être comme une plante qui se ramifie. Nos ramifications qui constituent notre être nous permettent d'aller au-delà de ce noyau.
Alors j'entends bien cette porosité dont vous parlez aujourd'hui, mais il y a une petite vingtaine d'années, dans un entretien, on vous posait la question justement, Bernard Chambaz, du passage entre la poésie et le roman, et vous commencez par répondre que c'est une question rude. Qu'est-ce qui pouvait rendre cette question-là, ou cette réponse-là, difficile, hein? Ou est-ce qu'au fond, la question ne se pose plus, maintenant, pour vous?
Grandissant, vieillissant, et avec l'ensemble des livres que j'ai publiés, en tout cas depuis 15 ans, donc vous parliez de 20 ans, voilà, depuis 15 ans, sans doute la réponse m'apparaît-elle plus, à la fois plus évidente et plus facile aujourd'hui. C'est la boutade bien connue. Dans la poésie, on va la ligne, et dans la prose, on ne va pas la ligne. Et il est certain que ce qui peut contribuer à l'expliquer et m'aider à répondre à la question que vous me posez, c'est le fait que dans mes deux derniers recueils de poèmes, les deux qui ont précédé, qui s'appelaient Été et Été 2, c'était un ensemble en deux fois de 1000, ce que j'ai appelé 1001 séquences, qui étaient comme chez Razad, comme les 1001 nuits, et qui étaient alternativement, sans ordre d'ailleurs tout à fait préconçu, des poèmes qui allaient à la ligne et des poèmes qui n'allaient pas à la ligne. Pour moi, il n'y avait pas de différence entre les deux, donc à la limite, il n'y en a toujours pas.
Paraît donc, etc. chez Flammarion, Bernard Chambaz, une série de poèmes qui donne son titre au recueil, hein, etc. Suivi, vous l'avez dit, de La mort de Verlaine, mais aussi de Dernières nouvelles données du bord de l'océan, de Vous avez le bonjour de Robert Desnos et de Du Bellay, du ballet. Si on comprend bien, donc effectivement, il y a ce trépied qui serait une façon, peut-être, hein, de régler certaines de vos dettes avec la poésie française. Mais pas seulement, hein, parce qu'on va trouver également, parce que j'ai cité ces trois-là, mais on va trouver aussi Jarry, on va trouver Bénézé, l'ami disparu, Ronsard, Ezra Pound, malgré tout, Aragon, le vilain, on va y revenir, Gramsci, Pasolini, Cummings, donc il y a du monde, beaucoup de monde. Il y est question en vers libre pour l'essentiel de recommencement, de commencement, de continuité, mais aussi de tombeau. De dernier poème, en fait. C'est quand même aussi ça, ce que vous traquez dans l'ensemble de ce recueil, hein, Verlaine et Desnos en premier lieu. Qu'est-ce qui se joue pour vous, Bernard Chambaz, dans cette traque du dernier poème que vous cherchez dans l'ensemble de ce recueil?
Oui, alors c'est étrange, même je peux vous dire, là en ce moment je suis en train de travailler sur les derniers tableaux des peintres. Il y a quelque chose de fascinant aussi dans l'urgence des dernières poses, dans cette espèce d'éclat très particulier, très singulier. Du Bellay savait pas qu'il écrivait son dernier poème, puisqu'il est mort d'une apoplexie à 37 ans, je crois. Bon, Verlaine, il écrivait des tas de trucs, il était malade, il était d'ailleurs plus préoccupé par la flambée des cours de l'or avec le Zambèze. Quant à Desnos, l'étrangeté de cette histoire de dernier poème, je trouve qu'elle est d'ailleurs assez belle, c'est que ce que j'ai lu comme étant, et je suis pas le seul, comme le dernier poème de Desnos, qui est un dernier poème enfin tout à fait bouleversant, incroyable, etc., que ce dernier poème n'est pas son dernier poème. C'est un poème qui a été écrit en 1926. Il l'avait en camp, il l'avait lu à ses compagnons de camp, et comme ce camp était dans la partie de l'Allemagne, enfin qui était dans ce qu'on appelle enfin la Tchécoslovaquie, et il a été traduit en tchèque, et après, donc il est passé pour le dernier poème de Desnos dans la traduction que deux jeunes gens, une infirmière avaient fait de ce poème, et il a été retrouvé, donc envoyé en France à Yuki, sa femme, il a été publié comme le dernier poème, donc il y a une espèce de quiproquo sur quel est le dernier poème de Desnos. Moi, je plaide plutôt pour l'idée que le dernier poème de Desnos est celui-là, et pas vraiment le dernier poème, c'est-à-dire que la légende, le mythe, devrait être plus fort que la réalité.
Etc. Le poème, hein, cette fois, et non pas le recueil, hein, ceci dit, c'est aussi lui qui ouvre le recueil, s'ouvre sur les vers suivants, etc. Desunt, et ce qui reste manque, ceux, les choses, disent les dictionnaires, mais davantage encore les êtres disparus, en singulière disparition à tout jamais, beaucoup au premier tiers de juillet, l'été, par un soleil éclatant. Cette locution, etc., vous les puisez dans sa forme stricte, hein, dans cette série de poèmes, dans sa forme voisine aussi, avec les points de suspension, deux points de suspension, trois points de suspension, dans la formule idem aussi, vous la traquez chez les autres, chez Baudelaire, chez Pasternak, chez Van Gogh, chez Cummings, chez Nerval, chez Léon Wolfgang. Qu'est-ce que cette locution-là dit chez vous, Bernard Chambaz?
Elle dit d'abord ce qu'elle dit chez les autres. Après, elle est aussi assez fondamentale pour moi. Les deux livres précédents, qui s'appelaient donc Été 2, étaient mille et une séquences. À la limite, j'aurais pu continuer comme ça, même si je terminais en disant que la mort était plus forte que les mots, parce qu'on peut aligner tous les mots qu'on veut. Quand on parle des morts, les morts restent morts. Donc il y a de toute façon quelque chose d'un peu illusoire et fragile dans cette tentative qui n'est pas du tout désespérée, qui peut être radieuse et tout, de cette conversation avec les disparus. Et voilà, j'en suis resté à cette etc. Et c'est vrai que quand je suis allé voir d'où venait l'expression, ce qu'elle signifiait en latin, vous venez de le rappeler, c'était assez exemplaire, assez formidable.
Vous voulez bien nous faire lecture?
Volontiers aussi. Repartir d'un traité de la ponctuation française qui nous place sous le signe de l'abrégement. Les points de suspension sont employés pour abréger une énumération très longue et dont on devine la suite. Ils sont alors comparables au N des mathématiciens et prennent la place d'un trivial, etc. Abrégement, vieux ou rare selon les dictionnaires, état de ce qui est rendu plus court. Durée. Dont on devine la suite. Justement pas, c'est toute la puissance et le mystère inépuisable de la langue que de nous surprendre et de nous emporter avec les éléments d'une énumération. N. Ensemble des entiers naturels, je ne suis pas tout à fait sûr qu'on puisse rivaliser. Trivial, pas si banal que ça, le etc., et rien de vulgaire en tout cas. Abrégé aura été notre vie ensemble, à cinq, mais royal, c'est le mot qui me vient, à l'instant, souvenir d'un dernier dimanche d'avril, ce grand champ en pente douce vers la rivière et les pâquerettes couchées par le givre. Après été, puis été deux, les mille et une séquences qui les composent, à la suite d'échoir et d'entretemps. Le tour était venu d'etc., par une espèce d'amenuisement des lettres et du temps, qui nous reste ici, bas, etc., puis et, conjonction de coordination et d'accélération, pâquerette et givre et clarinette juste au-dessus, joindre dans la phrase ce qui se disjoint dans l'existence. Et, suivi par « e » bientôt muet, qui s'impose et viendra un jour si je ne suis pas pris de vitesse. Et le plus simplement du monde, entendre en rime, pauvre mais juste, etc., et givre, et vivre, et rivière, et hier, « e » bientôt muet, déjà amenuisé, menuet, ce qui sous peu, ce terrain.
Merci. Merci Bernard Chambaz. Parmi ces etcétérans, un personnage central, Mallarmé, qui proscrirait ce geste qui élimine l'infini inutile et qui pourtant en fait tant usage pour le tombeau d'Anatole à la mort de son fils, à la suite de la mort de son fils à l'âge de 8 ans. On écoute.
Je le sens, moi, qui veux. Sinon la vie perdue, du moins l'équivalent. La mort. Où l'on est dépouillé de corps. En ceux qui restent. Et alors trois lui parlaient ainsi, n'est-ce pas que, ami, dis que tu triomphes, n'est-ce pas, dégagé de tout ton poids de la vie, ma vie, du vieux mal de vivre, ange. Bien fort, te sens et que tu te trouves bien toujours avec nous, Père-Mère. Mais libre, enfant éternel et partout à la fois. Et les dessous, je peux dire cela parce que je garde toute ma douleur pour nous, la douleur de ne pas être, que tu ignores et que je m'impose, cloîtré du reste, hors de la vie où tu me mènes, ayant ouvert pour nous un monde de mort. L'ensevelissement moral, père, mère, on ne le sache pas encore, etc., a mis la terre à temps, l'acte pieux de le cacher. Laisse l'autre mère, commune de tous les hommes.
Un extrait du Tombeau d'Anatole hein, de Stéphane Mallarmé, lu par René Farabée, c'était lors d'un atelier de création radiophonique en 1999, je crois. De quoi sont faits et remplis ces etc. de Mallarmé, que vous citez à plusieurs reprises, que vous listez même.
Oui, c'est une liste.
C'est une liste d'abord, alors même que... Alors, on n'est pas tout à fait sûr, mais alors même qu'il en proscrirait l'usage.
Ce n'est pas un livre, le tombeau d'Anatole. Ça n'a pas été publié du vivant de Mallarmé, ça a été publié bien après, dans la deuxième moitié du XXe siècle, je crois, à l'initiative de Jean-Pierre Richard. En fait, ça se compose de, et c'est d'ailleurs un très beau livre, ça se compose de 202 feuillets, donc qui ont été réunis en livre, où vous avez une dizaine de 10-12 mots par page, en vers. Et dans ces feuillets, il y a pas pléthore, mais il y a quand même beaucoup d'etc. Il y a quelques points de suspension, et bien évidemment, je ne pouvais pas ne pas y être sensible.
Ça n'est pas la première fois, Bernard Chambasse, que vous dialoguez avec ceux qui ont perdu un enfant. Je pense à Roosevelt, à Lincoln, à Lindbergh et sa femme, à Robert Plant, à Martin Luther King, à Chaplin, tous orphelins d'enfants, ça c'était notamment dans les dernières nouvelles oui. De Martin Pêcheur en 2014, mais on se souvient aussi qu'avec Plongée en 2011, vous aviez déjà évoqué un gardien de but allemand, Robert Henke, qui, orphelin inconsolé de sa fille, hein, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, s'était donné la mort à 32 ans. Qu'est-ce que vous trouvez auprès d'eux, auprès de ceux qui finissent par former une communauté dans votre littérature ?
C'est une espèce de compagnonnage, c'est une évidence que je ne l'ai pas choisi. Je savais ou je ne savais pas pour Mallarmé. Il y a par exemple un poète italien que j'aimais beaucoup à ce moment-là, qui s'appelle Ungaretti, à ce moment-là, je ne savais pas. J'avais lu des choses d'Ungaretti et je ne savais pas qu'il avait lui aussi perdu un fils qui avait 8 ans, qui s'appelait Marcello. Donc là, il y a cette espèce de compagnonnage. Et puis c'est aussi un... Parlant de Mallarmé, il y a quelque chose qui m'avait frappé, que j'avais écrit, c'est que la plus belle chose sur la mort du fils Mallarmé, Anatole, c'est à la limite, c'est pas Mallarmé qui l'a écrite, c'est Madame Mallarmé qui l'a dite. Quand elle a dit cette chose qui est incroyable, elle a dit on ne peut pas mourir avec des yeux pareils. Voilà, en voyant son petit garçon qui avait 8 ans, qui était malade. La poésie, c'est ça aussi. Il y a quelque chose de formidablement troublant. C'est-à-dire que, à côté de ces 202 feuillets qui sont d'une densité, d'une puissance, d'une discrétion, d'une pudeur assez formidable, finalement, 4-5 mots de Madame Mallarmé font le poids.
Vous avez demandé à entendre deux voix, et on en a choisi une, et c'est celle-ci.
He could no longer eat. He could no longer eat, for solids passed through him with the violence of a cloud. He drew his nourishment from a banquet of eyes. He dined on desire, and he was desired. Oh, he was desired. He courted it. It meant everything to him, for he was beautiful, and he was desired. And when he walked into the room, when he walked into the dining hall, the captain dropped his glass, and the first mate stood up and saluted to beauty, saluted to beauty.
How he wished. La voix de Patti Smith, un extrait de The Coral Sea, mer de corail. Il y a un album écrit à la mort de Mapplethorpe, je crois. Qu'est-ce qui vous lie à elle, hein, sachant qu'elle est également présente dans le recueil, etc.
Enfin là, je dis aux auditeurs, s'ils ont aimé, il y en a pour une heure. Hein, de ces
54
c'est
minutes.
Plus long qu'une chanson. C'est un disque pour plus d'une heure même. C'est un disque tout à fait magnifique qui nous ramène à la... pas loin des Marquises d'ailleurs, puisque c'est la mère de Corail. Cette conversation avec les défunts, qui pour une part nous habitent, mais je le répète aussi, qui peut se faire enfin d'une manière relativement joyeuse. Là, Patti Smith, c'est pas spécialement joyeuse, c'est une mélopée qui est très belle. En même temps, elle a chanté ça longtemps après la mort de son ami photographe. Et moi, ce qui me lie à elle, c'est que je l'ai beaucoup écoutée pendant que j'écrivais ce recueil. Donc, elle m'a, à sa façon, accompagné et elle est liée à ce que j'appellerais le paysage sonore. Qui est le nôtre pendant qu'on écrit un livre, quel qu'il soit. Il y a aussi des bruits qui contribuent à l'éclairer ou à l'obscurcir, enfin en tout cas à mettre ce que nous écrivons dans une certaine lumière ou dans un certain clair-obscur.
Cet album, c'est un album que vous avez écouté pendant l'écriture de ce recueil, que vous avez écouté aussi pendant l'écriture de Dernières Nouvelles du Martin Pêcheur, dans lequel vous faisiez notamment le voyage à vélo de l'Est vers l'Ouest, absolument. Je ne me trompe pas, des États-Unis, hein, en refaisant un voyage que vous aviez fait en famille à vélo. Et du vélo, il est aussi beaucoup question, il a été beaucoup question dans votre vie. Vous avez notamment écrit une petite philosophie du vélo, vous avez fait le Tour de France, bien d'autres en amateur, vous avez chroniqué le Tour de France dans la presse, vous avez pédalé en famille, beaucoup. En quoi est-ce que, au fond, le vélo pourrait être constitutif de l'écrivain que vous êtes, hein?
Il y a deux choses, peut-être même trois. Enfin, la première, c'est que pour être sur un vélo, il faut être en équilibre. Donc c'est de trouver un équilibre. Il n'y a pas non plus de règle à l'équilibre, simplement de trouver un équilibre. La seconde chose, c'est que tant qu'on pédale, on est vivant. Et la troisième, peut-être, qui, à mon avis, compte aussi beaucoup, c'est que le jour où je me suis rendu compte que finalement, on apprenait à écrire et à faire du vélo au même âge, c'est-à-dire en gros vers 5-6 ans, et avec les mêmes traces, le même dessin, c'est-à-dire qu'on commence par faire des boucles sur une feuille de papier à l'école, et on commence par faire des boucles, soit sur le macadam, soit si on a un peu plus de chance, par exemple au jardin des plantes, et on fait quasiment les premières figures qu'on dessine à vélo sont des 8, enfin c'est une droite, mais c'est aussi des 8, qui est accessoirement le signe de l'infini. Donc je crois que en ce sens-là, le vélo, on peut considérer effectivement qu'il y a quelque chose de constitutif.
Alors c'est un rapport au paysage qui passe par le mouvement, Francis Allais. Vous, alors même si vous avez évidemment beaucoup voyagé, mais c'est quand même une posture du corps, la plupart du temps, qui est immobile. Hein. C'est-à-dire que vous passez beaucoup de temps à observer, à regarder. On vous a vu beaucoup assis sur un arbre ou en haut des arbres ou grimpant en haut des arbres. C'est un rapport immobile au paysage que vous avez ?
Le moins mobile possible. Parce que si on veut le comprendre, il faut prendre du temps. Moi, je suis plutôt lent, un peu à l'image de mes plantes, et donc je n'aime pas aller trop vite.
Vous dites, Bernard Chambas, si je suis à vélo, il doit bien y avoir une raison. Qui serait ?
Justement, de continuer à pédaler, de continuer à vivre. Mais je voudrais dire que la lenteur n'est pas l'apanage de l'immobilité et du type qui est planté en haut, comme vous, en haut d'une forêt, que quand on traverse la prairie américaine ou le désert américain à vélo, on va lentement, même à la limite en voiture. Quand Kerouac traverse l'Amérique, à sa façon, il va lentement. J'ai même là-dedans, vous en parliez tout à l'heure, au tout début, là, dans le livre « À tombeau ouvert »,
donc qui est quand même
le top de la vitesse, le fin fond de la vitesse. Le pilote Ayrton Senna expliquait une fois que, justement, à la plus grande vitesse à laquelle il allait, le paysage devenait immobile. Une grande vitesse n'est pas non plus contradictoire avec une forme d'immobilité. Peut-être.
Francis Allais, si vous grimpez aux arbres, il doit bien y avoir une raison.
Ah ouais, c'est très simple dans mon cas. Ce qui se passe d'intéressant, c'est pas au niveau du tronc, c'est pas au niveau du sol, c'est en haut. C'est en bas aussi, dans la terre. Mais là, c'est beaucoup plus difficile. C'est les choses qui poussent. Et donc, il faut accéder à ces choses qui poussent. Et c'est soit tout en haut, soit tout en bas.
Francis Allais, Bernard Chambaz, c'est la fin de cette émission, ou presque, hein, puisque je vous laisse la finir entre vous. Et sans moi, alors bon après-midi à vous et bon après-midi à tous.
Alors nous voilà seuls à seuls.
Je trouve ça super. J'en reviens pas du nombre d'amis communs que nous avons. Ponge, par exemple.
Oui.
Valérie et Ponge, parce que pour moi, c'est comme j'habite Montpellier, je suis entre les deux.
Ah, quoi. C'est vrai. Oui, oui.
Et Ponge, il a écrit des choses sur les bois de pin, que j'adore. Oui. Et lui aussi avait une espèce d'intuition fulgurante. C'est lui qui a dit, en substance, les animaux, c'est l'oral, les plantes, c'est les cris.
Oui.
C'est une chose qui m'a jamais quitté, ça.
Oui. Le dernier livre, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est tout à fait magnifique, alors qui n'est pas son dernier livre à lui, mais qui est le dernier livre qu'il a fait en commun avec Jean Fautrier, qui s'appelle L'Asparagus.
Ah non, je n'ai pas vu ça.
Plus, ça vous plairait beaucoup. C'est un livre qui doit dater de 63. Et donc il y a Fautrier à dessiner des pains, d'ailleurs à l'huile, il y a 8 planches qui sont sur des doubles pages, des asparagus, c'est
asparagus,
extrêmement beau. Et le texte de Ponge est très beau aussi en rapport.
Est-ce qu'on peut définir la poésie?
Non, moi je suis... Non,
parce que interlocutrice, là, elle m'a demandé de définir l'arbre.
Oui. Ben, moi, elle m'a...
Moi, je n'arrive pas.
Non, moi, elle était sympa avec moi, elle ne m'a pas demandé de définir la poésie.
J'ai remarqué. Il y a une phrase de Baricot que j'aime beaucoup. C'est comme de définir la bêtise. C'est presque impossible, et pourtant nous en connaissons tous d'excellents exemples.
Oui. Je vous trouve un peu sévère sur la volonté. Je pense justement par le côté foudroyant de l'intuition. Enfin, c'est ce que vous avez dit aussi en faisant référence à Valérie, mais qu'on peut trouver des.
Mais c'est pas de l'anthropomorphisme dans le cas de Valérie du tout.
Ouais, c'est pas du tout ça. Faudrait que j'aille voir.
C'est juste de l'intuition brillante.
Ah ouais.
Fulgurante.
Bah vous me direz ce qu'il a dit alors. Non, vous me direz ce qu'il a dit, Valérie.
Il a dit en substance, l'arbre c'est du temps rendu visible. Et moi quand j'ai lu ça, j'étais étudiant, je me suis dit, ça signifie rien, c'est de la licence poétique.
Oui, non, c'est de la philosophie.
C'est des sciences naturelles au sens le plus strict, et maintenant j'ai compris ce qu'il veut dire. C'est réellement ça. Plus il grandit, plus il est vieux. Et donc vous pouvez... En le regardant, en disséquant, c'est encore plus simple, mais c'est un peu dommage. Vous pouvez voir le temps qu'il a mis à pousser, le temps qu'il représente. Il représente du temps rendu visible.
Oui, puis c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire, si vous montez là-haut, c'est pour voir pousser. Donc, c'est vous montez, voir pousser le temps.
Ouais. Voilà. On peut pas dire ça d'un animal.
Poésie et ainsi de suite, c'est vendredi prochain, même heure. Merci à Thierry Beauchamp pour la préparation, à Bruno Gagnère-Fontenier pour la technique, à François Connac pour la réalisation. Merci à Francis Allais et à Bernard Chambaz. Vous trouverez toutes leurs actualités sur franceculture.fr à la page de l'émission, à réécouter, podcaster et partager. Et tout de suite, c'est l'heure de retrouver le bionique Nicolas Martin pour sa nouvelle méthode scientifique.